Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et l'on vous retrouve, Régis Debray. Vous publiez Allons aux faits, croyances historiques, réalités religieuses, une coédition France Culture Gallimard, puisqu'on y retrouve les émissions que les auditeurs ont eu la possibilité d'entendre cet été sur France Culture, avec une formule, j'y pensais en écoutant la chronique de Frédéric Seyss, une formule sous votre plume, la politique a tué le politique. Expliquez-nous ce que vous vouliez dire par là.
Disons que la politique, ce sont les luttes conjoncturelles entre les personnes et les clans et les classes pour conquérir le pouvoir. Le politique, c'est la constitution des lieux de pouvoir, c'est-à-dire comment s'organisent des nations et des peuples. C'est, si vous voulez, la transformation d'un tas en tout. Donc la transformation d'une multitude en un peuple, une nation. Mais ça vaut aussi pour les équipes de foot, les clubs, les sociétés de pensée. Donc le politique, c'est l'organisation d'un collectif. La politique, c'est les disputes à l'intérieur du collectif.
Voilà. Mais il y en avait aussi chez les gaullistes, il y en a depuis longtemps.
Non, mais si vous voulez, j'oppose l'écume à la marée. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des anecdotes et des passions électorales, notamment, qui n'ont plus grand sens. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment s'est constituée, par exemple, la France ou l'Europe. Voilà. C'est-à-dire comment se structure des circonscriptions à l'intérieur desquelles on va se battre. Voilà.
Se battre. Il est beaucoup question également de guerre, Régis Debray. Il en est question dans l'actualité. Il en est question également dans vos réflexions. Et vous aimez à citer une phrase de Claude Witz selon laquelle la guerre n'est jamais une action isolée. Que voulait dire Claude Witz lorsqu'il expliquait que la guerre n'est pas une action isolée? Dans quel ensemble plus large faut-il remettre le combat et la bataille?
Oui, il a fait allusion au dernier numéro de Medium, là. Quelle guerre, quelle victoire. La revue que j'ai l'honneur de diriger. On se demande effectivement, qu'est-ce qu'une guerre qui n'a pas de traité de paix tout au bout?
La guerre contre le terrorisme.
La guerre contre le terrorisme n'a pas de victoire possible. Je n'imagine pas que les représentants d'Allah le Tout-Puissant reconnaissent un jour leur impuissance et viennent s'incliner devant Monsieur Obama ou Monsieur Hollande. Il est évident que l'offre de rachat des âmes perdues qui permet aux dévoyés de rentrer dans la bonne voie pour aller au paradis, elle continuera, bien après la prise de Raqqa ou de Mossoul. Donc, ce que Klaus Witt voulait dire, me semble-t-il, c'est que la guerre n'est pas sa propre fin. Et que là où il n'y a pas de politique, la guerre ne sert à rien. Vous savez, il y a beaucoup de victoires militaires qui ont débouché sur des défaites politiques.
Hein. Donc ça, c'est pour Klaus Witt. Pour Debray, aujourd'hui, j'en déduis que vous considérez que notre guerre, les actions militaires que nous menons, ne s'insèrent pas dans une politique claire, une politique qui pourrait, en quelque sorte, avoir raison de nos ennemis.
Non, mais il faudrait d'abord définir les buts de guerre. Qu'est-ce qu'une guerre qui n'a pas de but de guerre? Qu'est-ce qu'une guerre dont la victoire sera toujours indécise? Non, il y a des choses qui relèvent de la police et d'autres choses qui relèvent de l'armée. En ce qui nous concerne, ce n'est pas un déni de réalité que de dire « Attention, ne parlez pas de Troisième Guerre mondiale, une Troisième Guerre mondiale qui a fait 250 morts par an. » Rappelez-vous que le 26 juillet 1914, il y a eu 25 000 morts dans la journée et le président Poincaré n'est pas sorti de son bureau, n'est-ce pas? Alors, notre relation à la mort a changé, évidemment. Mais gardons le sens des proportions, si vous voulez. Hein. Je crois qu'il y a une rhétorique guerrière qui peut servir le politique dans la mesure où ça lui permet de faire le Clémenceau à bon compte, si vous voulez, ou en tout cas de sonner le tocsin pour rassembler les factions, unifier le pays, union sacrée, etc. C'est bon pour le médiatique également que de déclarer la guerre, ça fait monter la tension, donc la tension aussi, n'est-ce pas? Mais je doute que cette rhétorique guerrière puisse puisse correspondre à la réalité des choses, tout simplement. Il me semble que M. Cazeneuve fait bien son travail et qu'on a besoin de bons ordinateurs et de bons spécialistes de la filoche. Je doute que les bombardements viennent à bout de la soif du martyr. Ça peut même l'aviver.
Ce qui veut dire qu'à la place de nos dirigeants, vous ne feriez pas de bombardement.
Oh, je ne dis pas ça. Je pourrais, sinon faire comme Monsieur Obama, qui pratique l'assassinat à distance. Ça vaut mieux que la torture, hein, je suis d'accord. Nous n'avons pas de drone de combat, comme vous savez, donc ça nous est difficile. Mais je me méfierais de m'inscrire dans une coalition qui peut susciter de l'autre côté des réflexes, comment dirais-je, ancrés dans l'histoire. On n'aime pas beaucoup les étrangers et les croisés, voilà, donc c'est comme ça. Mais je vois que vous voulez me faire parler de l'actualité à tout prix.
Oui, et vous moi, savez, je suis journaliste.
C'est pas du tout mon, comment dirais-je, mon obsession. J'essaye de la comprendre en l'éclairant par le long terme, si vous voulez. J'essaye de comprendre l'actuel en l'inscrivant dans la longue durée. Mais l'événement quotidien, bon. Mais...
Cela dit, lorsque je vous ai cité Clausewitz, je citais effectivement la préface de votre revue Medium, ouais. Régis Debray, et il y a une dernière phrase dans cette préface qui me paraît être relevée du commentaire d'actualité, je vais vous la lire, elle est de vous, Régis Debray. Oui, c'est aussi cela ce qu'on appelle une guerre asymétrique, un électoralisme ici, un millénarisme là, soit plus sobrement une année d'un côté, un siècle de l'autre.
Oui, ça je... Vous savez, notre problème, c'est le court terme. De l'autre côté, il y a du long terme. Il y a beaucoup de mémoire. Le califat, n'est-ce pas? Et chez nous, nous avons l'habitude du zapping. Nous avons les élections l'année prochaine ou le mois prochain. Donc, nous n'avons pas le souffle long. Et nous craignons de mourir. De l'autre côté, on a le souffle long, c'est-à-dire que on s'inscrit dans l'égire, c'est-à-dire 14 siècles, et on aime la mort parce que la mort conduit au paradis, n'est-ce pas? Nous avons perdu l'idée de paradis, donc nous craignons la mort. Et celui qui ne craint pas la mort a un certain avantage dans le combat. Alors, il y a plusieurs raisons de ne pas craindre la mort, ça peut être le patriotisme. En tout cas, c'est toujours lié à un sacré. Le sacré, c'est ce qui commande le sacrifice. C'est non seulement ce qui l'autorise, mais c'est ce qui incite au sacrifice. Et insurge contre le sacrilège du même coup. Mais en tout cas, voilà, il me semble que nous sommes techniquement, évidemment, 10 000 fois supérieurs à nos adversaires et à nos ennemis qui nous ont déclaré la guerre. Est-ce qu'il faut leur déclarer la guerre parce qu'ils nous la déclarent? Je ne sais pas, c'est leur faire beaucoup d'honneur, me semble-t-il. On ne peut pas conférer à un détraqué la qualité de soldat, me semble-t-il, à moins qu'on fasse son affaire.
Vous avez beaucoup réfléchi également aux réalités religieuses, on en trouve... une partie où on trouve des traces de cette réflexion dans Allons au fait, le livre que vous publiez aujourd'hui, Régis Debray. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène extrêmement mystérieux chez ces jeunes qui décident de s'engager pour ce califat, qui viennent parfois de France, qui ont leur manière à eux de considérer le religieux? Vous qui avez beaucoup songé à ces questions, qu'est-ce que ces destins vous inspirent?
Vous savez, il y a un grand vide symbolique en Occident et en France en particulier. Lorsque vous n'avez plus de mythe d'identification, lorsque vous n'avez plus la fierté d'une appartenance, vous n'avez plus, je dirais, vous n'avez plus d'aventure. Et tous ces jeunes, peut-être, n'ont plus trouvé dans... l'enseignement de l'histoire, la fierté nationale ou le sentiment du progrès n'ont pas pu trouver ce qui pouvait les grandir, si vous voulez. Je crois qu'on paye la disparition de Péponnet et Camilo.
On paye durement donc, la disparition du mouvement ouvrier d'un côté et de la mouvance catholique de l'autre, qui avaient l'une et l'autre le don d'intégrer à la République, qui avaient l'une et l'autre le don de donner une fierté, une estime de soi et un espoir. Nous payons donc la dure victoire du libéralisme économique, la triste victoire du consumérisme. Voilà, bon. Il faut maintenant payer la note, espérons qu'elle ne soit pas trop lourde. Espérons surtout qu'on pourra donner à tous ces jeunes gens un peu de, je dirais, une plus grande estime de soi, ce qui suppose que l'État lui-même ait un peu de dignité, un peu d'estime de soi, un peu de hauteur, si vous voulez.
Mais alors, concrètement, puisque vous dites que finalement nous payons la disparition à la fois de la religion, des religions séculières, puisque le communisme était l'une de ces religions séculières, Régis Debray, est-ce que ça signifie qu'on est allé trop loin, par exemple, dans la laïcité, puisque finalement, ces religions, nous les avons fait reculer. Donc Camillo, s'il a de moins en moins de place dans notre société, c'est parce que on a décidé que l'Église devait finalement relever désormais des frontières du privé.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse faire de la laïcité une religion ou une para-religion officielle, parce que ce serait le contraire de la laïcité, ce serait une orthodoxie. Je crois que la laïcité, ce n'est qu'un cadre juridique. Ça ne répond pas aux questions de fond, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Ce n'est pas une métaphysique. Je dirais que c'est ce qui met la transcendance en autogestion, c'est-à-dire ce qui laisse à chaque conscience le soin de trouver ce qui la dépasse. En ce sens, c'est un pari humaniste qui, moi, me semble très beau, difficile. Difficile parce que c'est plus facile de se reposer sur un dogme ou sur un héritage ou une hérédité. Mais en tout cas, la laïcité n'est pas douée pour le merveilleux. Hein. Elle n'a pas elle n'a pas d'hymne, elle n'a pas de chant de marche. Elle ne peut pas se substituer aux grandes mythologies. La laïcité suppose, puisque ce n'est qu'un cadre et pas le tableau, que chacun remplisse le tableau à sa façon, comme il veut ou comme il peut. Ça suppose tout de même qu'on lui donne de l'instruction. et ça suppose qu'il y ait une puissance publique. Parce que la laïcité est toujours, si vous voulez, depuis Henri IV, elle va de l'État à la société, et pas de la société vers l'État. La société civile est incivile en France particulièrement. Elle est fragmentaire, elle est intéressée, elle est passionnelle. Il faut une puissance publique. C'était aussi bien le parti des politiques au XVIe siècle, que ça pouvait être Kemal Atatürk ou Juarez au Mexique. Et dans la mesure où l'État abdique, la société civile remonte avec toutes ses incivilités. Donc, voyez-vous, j'ai du mal à être libéral, libertaire, parce que je crains beaucoup les contre-coups. Les contre-coups, c'est la remontée des banques, des mafias et des clergés.
Alors on a malgré tout essayé de créer d'autres idéaux, et en particulier un idéal qui était l'idéal européen, un idéal qui vous laisse, semble-t-il, profondément en sceptique, Régis Debray.
Oui, cet idéal est en train de faire naufrage. Il était mal parti parce que il était parti sur un postulat, sur deux postulats. Le premier postulat, l'homme est un consommateur et n'est qu'un consommateur. Donc l'économie est au centre de tout. Donc on va faire de la politique à partir de l'économie. Ça ne marche pas. L'unification de l'Allemagne, ça ne s'est pas fait par le Zollverein, ça s'est fait par Sadova, ça s'est fait par un combat. Il faut toujours
On ne se pose qu'en s'opposant, et c'est toujours un ennemi qui a fait l'Europe. Hein. C'était Staline ou c'était le sultan au XVIIe siècle. Et deuxième postulat, il y a une convergence naturelle des peuples. Il y a un chemin de salut. Je crois que l'Europe, ça s'est fait avec la rencontre de deux mythologies. D'abord, la mythologie chrétienne. Et vous savez que l'Europe est chrétienne. Je suis très frappé quand on parle avec un député européen. Vous lui demandez, mais pourquoi vous avez 12 étoiles sur votre drapeau? Il sait pas. Pourquoi il est bleu, votre drapeau? Il sait pas. Ça en dit long, tout de même. Il y a 12 étoiles parce que ce sont les 12 étoiles de l'Apocalypse, de Saint Jean. Et le bleu, c'est le bleu de la Vierge Marie. Donc vous avez d'un côté ce legs chrétien, et puis, je dirais, une religion de l'histoire qui est celle, si vous voulez, en gros, du socialisme, à savoir progrès inéluctable, plus les gens seront riches, plus ils seront heureux, plus ils s'entendront, etc. Non, je pense que ces deux postulats sont en train de s'effondrer. Je le regrette d'ailleurs, parce que on parlait au début du retour du passé. Il faut craindre le retour du passé. Mais pour le craindre, il faut connaître ses raisons. Il faut donc comprendre pourquoi les gens ont besoin à chaque fois d'une langue, d'une histoire qui leur est propre. Non, il y avait beaucoup de naïveté dans le Paris de Jean Monnet, n'est-ce pas ? Qui était un homme d'affaires franco-américain très estimable. Mais ça n'a pas fait une fierté européenne. Ça risque de faire une succursale des États-Unis.
Nous avons débuté avec l'histoire. Nous allons finir avec l'histoire en écoutant un historien qui est entré au Collège de France et que l'on aime beaucoup ici. On l'écoute.
J'espère avoir le courage de décevoir les impatients, trouvant cette douceur inflexible dont parlait Nietzsche pour se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent, et se rendre ainsi insupportable à ce temps de hâte et de précipitation qui veut tout de suite en avoir fini avec tout. Nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos, une halte, pour reposer la conscience, pour que demeure la possibilité d'une conscience. Non pas seulement le siège d'une pensée, mais d'une raison pratique, donnant toute latitude d'agir. Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du présent, les poètes s'y consacrent avec exactitude. Il faut pour cela travailler à s'affaiblir, à se désœuvrer, à rendre inopérante cette mise en péril de la temporalité qui saccage l'expérience et méprise l'enfance. Étonner la catastrophe, disait Victor Hugo, ou avec Walter Benjamin, se mettre à corps perdu en travers de cette catastrophe lente à venir qui est de continuation davantage que de soudaine rupture.
La leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France. Il est là aussi question d'histoire. Régis Debray, je rappelle le titre de cet ouvrage, une coédition Gallimard France Culture. Allons aux faits, croyances historiques, réalités religieuses. Et puis la revue Medium qui a pour sujet, pour les mois d'octobre et de décembre, quelle guerre et quelle victoire, point d'interrogation.